Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à foutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
C'est un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 11 décembre et c'est Cinérama, c'est donc la dernière de l'année, du moins en petit comité, puisque la semaine prochaine Cinérama fusionne avec 24 notes secondes. Bonjour Manu.
Bonjour Marine.
Alors, de quoi va-t-on parler pour cette presque dernière émission ?
Eh bien, du remake de Carrie, Carrie la vengeance et non plus Carrie au bal du diable. Et puis je vais faire une petite chronique DVD sur un joli coffret, enfin, Rendez-vous avec la peur de Jack Turner.
Pour ma part, je vous parlerai, eh bien, quelle surprise, d'un film d'auteur français, ça sera La Jalousie de Philippe Garrel, histoire de bien clôturer cette année 2013. Et puis on parlera de nos tops et de nos flops un petit peu de cette année, voilà, pour finir, évoquer les films qui nous ont marqués. Ou pas du tout.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule.
Cinérama.
Je suis allergique.
Sur Divergence FM.
Bon, je n'étais pas trop impatient de voir Carrie la vengeance. Hein. La bande-annonce ne laissait rien présager de bon. Mais la curiosité l'emportant, je ne pouvais passer à côté de cette nouvelle adaptation du roman culte de Stephen King. Et en l'occurrence, son premier livre. Réaliser un remake d'un classique n'est pas toujours une idée pertinente, mais pourquoi pas ? D'autant que dans le cas présent, la réalisatrice, auteure d'un très joli film sur l'identité sexuelle, Boys Don't Cry, pouvait justifier une réinterprétation en se basant sur le roman plus que sur le film de Palma. Malheureusement, Carrie, la vengeance est un pur démarquage plat et sans inspiration du chef-d'œuvre de l'auteur de Pulsion. Le scénario est un copier-coller à de rares digressions.
Au sauveur, que ta lumière resplendissent sur les flots, qu'elle éclaire vers le ciel obscur, sauve les morts.
Je viendrai te récupérer après l'école.
Les autres, ils trouvent que je suis bizarre.
Carrie, ton poème préféré, tu nous l'as apporté?
Je veux pas être comme ça. Je veux être normale.
Ton petit sourire, là, tu le ravales tout de suite.
Il faut absolument que j'essaie de trouver mon équilibre avant qu'il soit trop tard.
Aidez cette petite à voir ses péchés. Si elle était restée innocente, le sang ne l'aurait
Maman,
pas frappée.
Maman, c'est même pas dans la Bible, je t'assure, regarde, c'est écrit nulle part.
Il va aller dans ton placard et prier.
Non.
Prie.
Non.
Allez, prie, ma petite. Prie, implore le pardon.
Si je me concentre très fort, je fais bouger les objets. Il y a d'autres gens qui peuvent faire les mêmes choses que moi.
Tu sais, le diable ne meurt jamais. Il revient toujours. Et il faut le tuer à nouveau.
Non !
Le bal, c'est la semaine prochaine. Si t'as personne, viens avec moi si tu veux.
Maman, un garçon m'a invité au bal.
Ils vont se moquer de toi. Ils vont tous se moquer de toi.
Moi, je t'en prie.
Vous deux, je vous préviens. Si jamais vous me jetez un sale coup contre cette pauvre petite...
Le roi et la reine sont...
Donc, vu le degré d'indigence du film, qu'est-ce qu'on peut vraiment en dire, hein ? On va jouer donc à un jeu des 7 différences avec l'original, voire des 7 erreurs ou des 7 hérésies. Donc déjà, le prologue, complètement absurde, commence par un accouchement douloureux, celui du personnage éponyme, par une mère hallucinée qui se demande bien ce qui lui arrive. Premier signe du peu d'implication de l'entreprise, le bébé sort sans son cordon ombilical. Non mais c'est vrai, hein, comme dans n'importe quelle série Z horrifique. Aujourd'hui, une telle erreur de script est un peu une insulte au public. Deuxième point, donc la partie de volleyball se déroule dans l'eau. Ça, c'est original, hein. Ils ont décidé, bon, allez, faut bien innover un petit peu. Oui, c'est pas du water polo, c'est du volley dans l'eau, je sais pas. C'est... Bon. En revanche, la séquence de la douche, digne d'un téléfilm de bas étage, montre à quel point le cinéma d'épouvante est devenu timoré et puritain. L'érotisme trouble et le voyeurisme dégagé par l'original sont totalement évincés. La nudité aujourd'hui fait peur. On peut mettre des litres de sang partout, mais quant à faire apparaître des filles nues, c'est un autre problème. Si bien que l'apparition des règles de l'héroïne ne provoque aucune émotion, aucune angoisse. Troisièmement, la très mignonne Chloé Garce Moretz, qui était apparue excellente d'ailleurs dans les Kick-Ass, elle ne possède pas du tout la singularité des traits de Sissy Spacek, ni son physique un peu hors norme de petite fille, alors que Spacek avait bien 25 ans à l'époque quand elle a tourné Carrie. Trop lisse, trop jolie, et du coup trop uniforme, elle ressemble à n'importe quelle lycéenne. Alors que Spacek, justement, prouvait d'un plan à l'autre, elle pouvait être séduisante autant que repoussante. Quatrième différence, la réalisatrice a cru bon donner à Carrie une pleine conscience de ses pouvoirs. On la voit s'intéresser à la télékinésie et jouer dans sa chambre avec les objets, les livres qu'elle déplace comme bon lui semble. Pour peu, on se croirait dans Harry Potter. Cette dimension banalise la part d'inconscient, d'animalité qui agitait l'esprit de Carrie dans le film de De Palma. Elle n'utilisait ses pouvoirs qu'en cas de colère extrême et d'émotion poussée au paroxysme. Or, la nouvelle Carrie maîtrise parfaitement son don et en fait un peu ce qu'elle veut. Elle fissure même le sol, comme dans 2012. Et bon, c'est un peu exagéré pour simplement des pouvoirs de télékinésie. Enfin. Cinquièmement, la direction artistique est foireuse. En témoigne l'intérieur de la maison de Carrie, totalement anodin et aseptisé, alors que le travail de Jack Fist sur De Palma était impressionnant avec des moyens réduits. Ces tentes chargées de symboles religieux provoquaient un malaise, baignant dans un climat vraiment anxiogène que la mise en scène rendait palpable. Là, on a l'impression d'être dans n'importe quelle maison totalement banale, alors que justement l'aspect religieux est important dans le film. Sixièmement, la séquence, évidemment tant attendue, du bal, est traitée avec une telle absence de point de vue que rien ne touche ni le désarroi dessous, comprenant trop tard l'horrible machination dont va être victime l'héroïne, ni la colère de Carrie sans relief et annihilé par une réalisation standard, en fait. Là où De Palma s'en donnait en fait à cœur joie avec ses split screens, ses ralentis, ses travelling, bref, tout un arsenal d'artifices sublimant l'humiliation, Kimberly Pierce filme sans inspiration ce qui devait être le clou du spectacle. En fait, avec 10 fois plus de moyens que pour l'original, c'est un peu rageant. Enfin, la noirceur de l'original, via le cauchemar traumatisant ne laissant personne indemne, laisse place à une scène de procès inappropriée, enfin en prologue à la fin en fait, laissant juste entrevoir que Sue s'en est sortie, physiquement et même psychologiquement. Pour une femme enceinte, parce que là on apprend aussi qu'il fallait ajouter un plus par rapport au De Palma, c'est-à-dire que la jeune femme Sue, la copine de Carrie, enfin celle qui essaye de réparer les erreurs, est enceinte dans le film. C'est Carrie qui lui apprend. Il fallait donc terminer par une sorte de happy end. C'est un peu n'importe quoi, en fait. Hein. Bon, revoyez l'original, hein, qui vient d'ailleurs de sortir en Blu-ray, plutôt que cette relecture insipide et opportuniste, à peine supérieure au nullissime Carrie 2, réalisé aussi par une femme. Comme quoi ?
Il me semble que c'est Chloé Grace Moretz, et non pas Chloé Garce.
Ça fait à mon avis envie de dire Garce.
Ta langue un peu penchée. Eh bien, donc, c'était Carrie Anne, surtout. Pas voir, on va maintenant revenir au vrai cinéma d'auteur français quand même. C'est toujours Cinérama.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Et on va donc parler maintenant de La Jalousie de Philippe Garrel.
C'est là ?
Ouais.
J'ai cru que t'étais perdu.
Mais tu voudrais que j'aille où ?
Qu'est-ce que tu fais là, toujours devant la porte ?
J'attends papa.
C'est ici que tu m'as embrassé pour la première fois.
Ah ouais.
Stéphane.
C'est toi ou c'est papa qui était plus amoureux ?
Bon, écoute, Charlotte, on va pas recommencer, je t'ai raconté 100 fois.
Je sais qui je suis, depuis très longtemps. C'est une chance, mais c'est aussi une douleur. C'est pour ça aussi que je sais que je t'aime. Je t'aime pour ce que tu es, pour ce que tu penses. Je t'aime, c'est définitif.
femme.
Chut.
C'est ta femme.
Tais-toi.
Salut.
Salut.
Si un jour on est infidèle, tu veux qu'on se le dise ou pas?
Oh là là, t'es compliqué, toi.
Toi, tu voudrais pas savoir?
Moi, j'ai juste besoin que tu m'aimes. Puis qu'on soit bien tous les deux.
Dis, je suis jalouse. Oh,
je
mon
suis
père
pas jalouse.
L'homme qui est tout pour moi dans ma vie. Dis-le.
On a touché des barrières.
Donc. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux plus vivre avec moi?
Des limites à aimer.
Ah non, moi j'ai pas de limites à
aimer. Fais gaffe, mon petit, c'est dangereux.
On est tous là pour vivre à fond, pour vivre le plus de choses possible, pas pour attendre.
Alors oui, on pourrait croire qu'il s'agit d'une parodie de film français. Philippe Garrel qui revient après le peu convaincant Un été brûlant, mettant en scène à nouveau son fils Louis, toujours aussi désinvoltement neurasthénique, ainsi que sa fille, cette fois Esther, dans un Paris idyllique, plein de parcs romantiques, sans clochard ivre sur les grilles de métro, ni tac sur les murs. Alors les personnages centraux sont bien entendu tous les deux comédiens, pauvres mais heureux. Ils s'aiment, ils théorisent sur les sentiments dans des appartements exigus, filmés en noir et blanc. Ils fument en réfléchissant au sens de la vie, où ils pleurent face caméra, et tout cela s'achève sur une musique de Jean-Louis Aubert. Oui, mais, malgré l'apanage du parfait film d'auteur intimo-chiant, la jalousie s'avère beaucoup plus prenante que l'on ne l'aurait craint. Il s'articule autour d'un scénario simple et détails non négligeables sur une durée courte, 1h17. Un couple ayant une petite fille se sépare car l'un est tombé amoureux d'une autre. Une comédienne plus bohème et plus fatale que la précédente, interprétée par Anna Mouglalis, qu'on a entendu tout à l'heure, et qui finira à son tour par le quitter. Alors il est vrai que l'on cherche un petit peu la jalousie du titre, car si les questions d'amour et de déchirement, on tourne autour de ce thème de la jalousie sans pour autant entrer de plein pied dans le sujet. Tout cela reste contenu, en retenue, à l'image du jeu très intériorisé de Louis Garrel, qui ne semble pas jouer grand-chose, mais qui réalise en fait justement l'une de ses meilleures performances, loin du cabotinage de bobo stéréotypé qui l'avait rendu célèbre. Alors il faut reconnaître qu'il n'y a que lui pour réussir à dire des phrases comme « Je t'aime et c'est définitif », ou pour demander « Quelle heure est-il ?» après avoir tenté de se suicider. Tandis que Anna Mouglalis, elle, court ou fume de façon éperdue dans les rues pavées de la capitale. Elle court en talons, hein, quand même, il faut souligner la performance pendant tout le film. Et pourtant, on s'attache au personnage, on apprécie la pudeur de la mise en scène, la pureté de la photographie, beaucoup moins soulignée et contrastée notamment que dans Les Amants réguliers. Et si l'on sort de la jalousie sans avoir l'impression prégnante d'avoir assister à une œuvre majeure du cinéma, le film vaut néanmoins bien plus que d'être expédié dans la catégorie des films d'auteurs prétentieux. Les personnages sont suffisamment bien esquissés pour que les comédiens les animent avec peu de texte et de situation. Précision d'ailleurs que la très jeune comédienne qui joue la fille du couple est excellente. Et c'est souvent ce qui pêche dans les grosses comédies françaises. Souvent, les enfants comédiens sont très mal dirigés. Alors bon, là, pour le coup, il ferait mieux de s'inspirer un petit peu du cinéma d'auteur. Enfin bref, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte d'aller voir La Jalousie. Promis, ça ne vous achèvera pas. Pour moi, c'est l'exemple même d'un cinéma simple mais vivant qui est tourné avec très peu de moyens et qui est habité par des acteurs qui font en sorte de sauver une œuvre qui sinon serait un peu vide et nihiliste.
Donc, et puis il dure 1h18.
17.
17 même.
17, bon. Tout à fait. Donc voilà, ce n'est pas une perte de temps et c'est très très loin d'être un navet et d'être chiant. On continue, c'est toujours Cinérama.
Cinérama sur Divergence FM.
Alors entre le Garrel et puis le film dont je vais vous parler, Rendez-vous avec la peur, il y a au moins un point commun, le noir et blanc. Eh oui. Et peut-être même le format, mais bon, ça, c'est à vérifier.
Quelle transition,
oui. Donc, le chef-d'œuvre de Jacques Tourneur sort enfin en France. Inédit jusque-là, il est donc édité en Blu-ray dans une édition magnifique. La restauration est splendide et le film se voit accompagné d'un joli livre en plus, de signé Philippe Garny, me semble. Comme pour La Nuit du Chasseur et bientôt un autre grand classique qui va sortir, Gun Crazy, Wildside, l'éditeur, nous fait donc un joli cadeau de Noël. Enfin, je me suis fait un joli cadeau de Noël. Rendez-vous avec la peur, Night of the Demon ou Curse of the Demon pour les titres originaux, est une commande d'un obscur producteur anglais. Tourneur, qui n'avait réalisé aucun film fantastique depuis son association avec Val Lewton pour la RKO dans les années 40, il accepta tout de suite. À la lecture du sujet, on comprend pourquoi. Il a toujours été fasciné par le spiritisme, les forces occultes. Convaincu de l'existence des fantômes, le réalisateur de La Féline n'est pourtant pas quelqu'un de crédule, mais sa croyance renforce la crédibilité d'une œuvre remarquable sur bien des points. Donc le postulat initial inscrit d'ailleurs le film dans une veine, on va dire, plus réaliste, proche du film noir, et surtout fait preuve d'une modernité tant narrative que plastique assez surprenante pour un film réalisé à la fin des années 50. Alors le sujet, c'est le docteur Holden, éminent psychologue, enquête sur le décès mystérieux du docteur Harrington à la demande de sa fille Johanna, persuadée qu'il ne s'agit pas d'un accident. Donc Johanna pense qu'un certain docteur Carswell, spécialiste de l'occultisme, est impliqué dans ce qui est arrivé à son père. Holden se rend chez Carswell et son scepticisme va progressivement en prendre un coup. Tout le travail de tourneur est là, dans cette manière de partir d'un récit cartésien et réaliste et de l'amener progressivement vers des terres plus sinueuses, troubles. Moins poétique que la féline ou vaudou, Rendez-vous avec la peur n'en est pas moins une œuvre passionnante, quasi théorique sur la peur et ses mécanismes. Il s'agit d'une réflexion sur le genre, on va dire un métafilm avant l'heure, influence majeure d'ailleurs d'un film de John Carpenter, L'Antre de la folie, que tu n'as peut-être pas vu, Marine.
Ce serait pas surprenant que je ne l'ai pas vu.
Je ne pense pas, mais bon, un film très important de Carpenter. Hein. Donc Tourneur part en fait d'une situation simple, hein. Comment un esprit rationnel va-t-il affronter des événements de plus en plus étranges et perturbants? Certains faits mystérieux nous échappent, autant qu'un pur film de terreur, Tourneur interroge aussi le statut de l'artiste face au mystère de la création. On ne peut pas tout expliquer. C'est un immense cinéaste de l'ambivalence, en fait. Hein. L'auteur de La Féline, il n'explique pas grand-chose, joue sur les ombres et la lumière. Il y a la course-poursuite d'Holden dans la forêt, d'ailleurs, est un grand moment de cinéma, ne serait-ce que pour l'utilisation du décor, filmé dans un style purement expressionniste. Voilà, Tourneur multiplie vraiment les séquences impressionnantes et peut-être la plus belle et inquiétante du film est celle où Harrington se rend chez Dr. Carswell, le docteur, spécialiste donc de l'occultisme. Il est grimé en clown pour l'occasion et s'amuse avec des enfants. Et il va déchaîner des éléments de la nature afin de convaincre son hôte que tout ne peut s'expliquer par la science. Voilà, le fantastique s'immisce toujours dans le réel par petites touches, digressions. L'art de la suggestion atteint des sommets. D'ailleurs, à la base, Tourneur souhaitait que le spectateur soit dans une position inconfortable, ne sachant pas très bien ce qu'il a vu. Malheureusement, le producteur lui imposa l'apparition d'un monstre assez ridicule. C'est un peu le seul défaut du film. Une création un peu cheap qui a tendance à contredire tout le travail complexe du cinéaste. Aujourd'hui, ce côté démonstratif n'est pas sans charme, mais il est important de savoir que annihilé par une... que en fait, il voulait absolument pas tourner cette séquence. Enfin, c'est un peu dommage en fait. Hein. Tourneur souhaitait que le spectateur ne sache pas ce qu'il avait vu et voulait faire apparaître furtivement en fait la bête pour qu'on ait une impression de qu'on ait vu une image mentale comme ça, mais sans être persuadé l'avoir vu. En fait, il y a une idée géniale aussi de celle du parchemin qui est porteur de la malédiction, sera reprise dans un film de Sam Raimi qui s'appelle Jusqu'en enfer. Donc voilà, je conseille vraiment Rendez-vous avec la peur parce que c'est vraiment un film qui a influencé énormément de films à venir, notamment dans le fantastique. Et, un film même comme Rosemary Baby doit tout à Tourneur, que tu as peut-être certainement vu pour le coup.
Ça en revanche, oui, quand même.
Voilà.
J'ai des lacunes, mais pas à ce point.
Voilà, le film est donc édité chez Wildside, je répète. Alors, il n'est pas donné, hein, il doit être autour de 30 euros, hein, mais c'est vraiment un bel objet. Hein. Et je déconseille par contre fortement la version française qui a été réalisée pour l'occasion. Elle est récente et c'est très, très étrange de voir une version française avec des voix actuelles sur un film des années 50.
Oui.
C'est plutôt même raté.
En effet. Eh bien, à présent, rendez-vous avec le top 10 dans Cinérama.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Conneries, je vous dis. Et même saloperie, hein.
Sur Divergence FM.
Alors voilà, comme chaque année en décembre, il est temps de se prendre pour des journalistes des cahiers du cinéma, hein, et de faire son petit top 10. Oui, mais voilà, en 2013, eh bien, je me suis retrouvée bien embêtée devant tous mes tickets de cinéma lorsque je me suis rendu compte, en fin de compte, que peu de films sortaient du lot. Pas de remake de super-héros excitants, peu de films surprenants. On aura eu droit à un Spielberg poussiéreux, un Almodovar bidon, un Ang Lee où on fait du kung-fu au ralenti, quelle surprise. Un Sofia Coppola insipide, la dernière partie de la trilogie clapichienne Les casse-couilles chinois, des comédies françaises ratées et très chères, même si c'est devenu un pléonasme, des adaptations foireuses, des films qui font plus de buzz sur les réseaux sociaux que d'entrer en salle. Et puis, bah, pas mal de films aussi que j'ai quittés en cours de route, parce que bon, faut savoir que quand on prend de l'âge comme moi, on n'a plus envie de perdre de temps. Alors peut-être bon, bah, que ce bilan décevant est dû au fait que mes collègues ont été voir tous les bons films à ma place, c'est possible. Peut-être que je suis juste en train de perdre la foi, hein, que j'avais en cinéma, ou peut-être que bah, par hasard et par obligation, je me suis coltiné un bon gros paquet de daubes. Toujours est-il donc que peu d'œuvres émerge. Alors je me suis donc résolue à abandonner le traditionnel décompte de la 10e à la première place, en ce qui me concerne en tout cas, toi je sais que Manu tu l'as fait, et j'ai préféré simplement bah, conserver les quelques films qui pour moi sortaient du lot par leur originalité, leur interprétation et leur manière de traiter un sujet. Alors il y avait notamment, je ne le cache pas, beaucoup de films français, Grand Central, Alors ça, c'était surtout pour l'originalité du sujet, c'est-à-dire le parallèle entre l'histoire d'amour et la vie dans la centrale nucléaire. Jeune et jolie de François Ozon, parce que je trouvais que la manière de traiter le sujet de la prostitution était extrêmement délicat et intelligent. Et oui, la vie d'Adèle, Manu, en effet, pour l'interprétation, en effet, je pense que ça fait partie des meilleurs films de l'année. Après, en revanche, il y a vraiment trois films qui sont pour moi encore au-dessus de cela. C'était L'Inconnu du lac de Guy Roddy, un thriller érotico-gay avec une ambiance vraiment très très particulière. D'ailleurs, Vincent l'avait interviewé à l'occasion de la sortie du film. Stalker, la première incursion de Park Chan-wook dans le cinéma américain pour un espèce de thriller incestueux aussi pervers qu'esthétisant. Et il y avait notamment ce film aussi qui est sorti en janvier. C'est Blanca Nieves, film espagnol qui a tout raflé au Goya d'ailleurs, et qui est vraiment ce que j'ai vu de plus original depuis très très longtemps. Alors c'est vrai que je l'avais un petit peu oublié parce que donc, c'est sorti en début de cette année. Mais pour moi, c'est, je pense, le meilleur film de l'année. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Manu.
Je ne l'ai pas vu. Donc j'ai un film en commun avec toi.
Un seul.
J'en ai un seul.
Je sais, c'est Grand Central.
C'est Grand Central, effectivement. Non, moi, le meilleur film de l'année, je pense que c'est le Kyoshi Kurosawa, Shokuzai, qui n'est d'ailleurs pas un film à l'origine. C'est un téléfilm, même une série, en cinq épisodes. Donc, ils ont sorti donc, pour l'occasion en France. Je trouve que c'est un film absolument exceptionnel. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'en parler longuement ici. Et puis ensuite, y a Passion de Palma, que je trouve qui est un remarquable remake d'un film d'Alain Corneau. Le Django Unchained, je trouve que Tarantino a fait vraiment, il fait peut-être du Tarantino, mais il le fait très très bien. Hein. Il refait un peu la même chose que pour Inglourious Basterds, mais cette fois-ci dans l'univers du western. Je trouve que c'est toujours très très bien écrit. Par la suite, donc, il y a aussi Snowpiercer, le transpersonnage, excellent film de science-fiction par l'auteur de The Host. Je vais aller un peu plus vite pour le reste. The Immigrant de James Gray, que j'ai trouvé formidable aussi. Un joli mélo.
Mais ça, en fait, c'est tous les films
que
tu m'as volé.
Vu,
en
que
fait.
Je t'ai volé, que tu devais
que,
voir.
Voilà, c'est exactement ça.
Le film des frères Cohen, Inside Llewyn Davis, qui est aussi un remarquable portrait d'un chanteur folk dépressif du début des années 60. Borgman, film de Hollandais, assez curieux, d'une sorte de film à la Haneke, mais plutôt drôle. Enfin, voilà, Haneke qui aurait un grand sens de l'humour d'un coup, qui aurait découvert l'absurde. Et puis, j'ai plutôt bien aimé quand même aussi le Nicolas Winding-Refn,
Only
God Forgive, pour le côté purement plastique, pour sa mise en scène, hein, plus que pour un sujet qui était quand même pas très très épais, on va dire. C'était un peu minimaliste. Et puis, enfin, Prisoners, excellent thriller du canadien, québécois même, hein, Denis Villeneuve, qui avait fait un film qui s'appelait Incendie. Voilà, je pense que j'arrive au 10 et puis le 10e, hein, donc le film de Rebecca
Zlotowski. Grande Centrale.
Grande Centrale.
Enfin, un tout petit tour par les flops maintenant. Alors moi, il y a un film particulièrement cette année qui m'a donné envie d'hurler, c'était celui-là. Ah oui, Gatsby le magnifique de Baz Luhrmann, une bonne grosse bouse visuelle, hein, la preuve ultime et définitive que Baz Luhrmann doit vraiment se retirer du cinéma et se consacrer à une carrière de styliste gay. Bien sûr, on comprend totalement, hein, que l'image volontairement travaillée à la palette graphique, c'est pour accentuer ce côté rêve éveillé, mais on sait aussi quand même que le réalisateur a un mauvais goût très sûr et que cette fois, on lui a remis un budget bien trop énorme qui lui a permis de laisser libre cours à sa mégalomanie. Malheureusement, il y a également dans mon top flop sur la deuxième marche, Le jour attendra de Edgar Marie, un autre de la longue liste des réalisateurs très mauvais engendrés par Olivier Marchal, des réalisateurs français qui veulent faire des polars avec de vieux flics à la peau pourrie qui fument des clopes en regardant la nuit parisienne pendant que le spectateur s'emmerde. Et alors quand même, je pense, le top du top, c'était Les Invincibles de Atmen Khelif sur lequel je ne reviendrai pas parce que mon cœur saigne en pensant à tous les petits enfants de Centrafrique qu'on aurait pu nourrir avec le budget de ce film. Manu, un petit trio de têtes pour ce top flop.
Alors là, ce sera deux têtes. Enfin, il y en a un particulièrement. Celui-là, je pense que si tu l'avais vu, si tu avais osé le voir, si tu avais eu des, si tu avais des enfants, tu y serais peut-être allé. C'est le fameux Boule et Bill, d'après la bande dessinée de Roba.
Donc encore une bonne raison de ne pas avoir d'enfants.
Et là, c'est vraiment la catastrophe totale. Absolument pas drôle, sans rythme. Les acteurs en roue libre. Enfin, des acteurs qui sont tellement ternes qu'on se demande pourquoi tel film existe.
Pourtant, il y avait Marina Foïs dedans.
Ben, elle est, oui, mais elle est absolument pas drôle. Et puis, Franck Dubosc, bon, déjà, moi, je peux pas. Mais alors là, encore moins. Et puis, c'est une catastrophe totale. C'est vraiment catastrophique. Et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'adapter ce genre de BD qui en fait, c'est... Une planche, en fait. Ce sont des planches, des gags, en fait, à chaque fois. Il n'y a pas une histoire. Donc, le film peine vraiment à raconter quelque chose d'intéressant.
En même temps, les comédies françaises, cette année, ont eu rarement de bonnes idées. Tu as un second et un premier ?
Cette année ?
Oui.
J'ai pas vu de comédie française, à part Les Gamins, je crois, cette année. J'y vais pas avoir des comédies françaises, c'est fini. Je crois qu'il y avait eu Turf, mais je l'ai pas vu.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes ?
On va finir à présent avec l'agenda, ce Cinérama. Mercredi, ce soir, à 20h05, eh bien, c'est le Contrebande Festival du cinéma social au Diago. Ça commence avec Les Jours Heureux de Gilles Perret, une séance suivie de débats avec Fabrice Ferrari. Le tarif est unique à 5 euros. Ça continue ensuite jeudi, demain, également à 20h05, avec Sauf le respect que je vous dois de Fabienne Godet. Pardon. Également une séance à 5 euros suivie d'un débat. Et le Contrebande Festival du cinéma social se finira vendredi, ce vendredi 13 décembre, à 17h50, avec Sur la planche de Leïla Kilani. Demain, le cycle de films longue distance aura lieu à la Panacée. Au programme de cette dernière soirée consacrée au transport amoureux des films à redécouvrir, notamment de la cinématographie italienne et française, à 18h30, il y aura La voix humaine de Roberto Rossellini. Ce sera suivi d'un débat avec Marion Poisson, qui est enseignante en cinéma. Il y aura également à 21h Allô Berlin, ici Paris de Julien Duvivier, un court et plus. Le dîner de gala des ambassadeurs, un court-métrage de Sacha Guitry. Tout ça, c'est à la Panacée. Également, jeudi, demain, au Nestor Burma, une soirée autour de la musique à partir de 19h. Un petit concert de Gilles Davis et Luc Maubon, ainsi qu'une projection de Roots Tour, un documentaire de Claude Sicre. Tu voulais ajouter quelque chose, Manu ?
Oui, demain, à Utopia, il passe un très très grand film espagnol dont j'avais parlé ici, qui s'appelle Les Révoltés de l'an 2000.
Oui, en effet, je m'en rappelle, voilà. Un très bon film. À quelle heure ?
Il le passe à 20h30, dans ce qui a remplacé donc, l'absurde séance. Donc voilà, donc, je conseille vraiment vivement d'aller voir ce film, qui est vraiment un très très grand film fantastique espagnol.
Et pour finir cet agenda, vendredi au Gaumont Multiplex à 20h30, l'avant-première de Angélique, le remake de Angélique, réalisé par Ariel Zetoun et avec Gérard Lanvin. Et pour terminer, lundi à 18h, au Diagonale, juste une question d'amour de Christian Faure, suivi d'un débat sur l'homophobie.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Voilà, c'était Cinérama. La semaine prochaine, l'ultime émission de la saison, ce sera fusionné avec 24 notes secondes pour une émission exceptionnelle. Et justement, parlant de 24 notes secondes, la prochaine émission à venir tout de suite après sera consacrée à François de Roubaix, Manu.
Oui, un compositeur des années 60, un compositeur de musique de film, Cinérama, qui a, il me semble, composé la musique de Chapi Chapeau.
À ne pas rater, merci François, à la technique, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Y a pas de saint, y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.